c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec les Léa Calogero-Boudali.
Bonjour à tous.
Tom Villain.
Bonjour.
Albert Algou. Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Et
bravo,
notre invité Marine Delté.
Bonjour.
Alice Nevers, ça passe ce soir, c'est un carton, j'ai deux cartons autour de la table, deux cartons TF1 entre Alice Nevers, Nevers.
Alice Nevers.
Et ça sera demain soir. Oui, c'est ça, jeudi soir, c'est demain.
Ouais,
je me trompe ou pas?
Ouais,
c'est
arrêtez d'en parler parce qu'à chaque fois ça perd 24 heures. Hein.
C'est vrai, c'est déjà arrêté. Sur TF1, énorme succès. Et puis Munch, joué par Isabelle Nanty et
Tom Villain. Jean-Baptiste, Paloma Coquin, Aurélien Vichy.
Oui, on n'est pas là pour ta promo, on est là pour la promo de Marine, s'il te plaît. Donc TF1 est bien servi. Trop d'ailleurs.
Beaucoup trop.
Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi. Merci d'être là, Marine. Merci mille fois. On est ravis de vous accueillir. J'espère que vous avez bien compris, Maréchal Ganache, pourquoi Marine était notre
invitée. Bien sûr que je sais pourquoi. Alors que vous, mon cher Nagui, pas plus tard que tout à l'heure, vous demandiez pourquoi nous recevions Marine Delterme. En éructant, je vous cite, dans les couloirs, j'en peux plus de ces séries policières où désormais, au nom de je ne sais quelle parité, le juge est une femme, le commissaire est une femme, le CRS à moustache est une femme, le chien policier est une femme, Hercule Poirot est une femme. Après les séries policières, c'est dans les jeux télévisés, avez-vous poursuivi, que les animatrices vont définitivement prendre la place des animateurs. Je ne parle même pas des infos d'où ce pauvre Pujadas vient de se faire éjecter. Fin de citation. Et après avoir cassé d'énervement le bras de notre président, Mathieu Gallet, ce bras avec Mathieu lequel...
Gallet.
En français, on prononce toutes les lettres.
Non, tu dis pas Paris, tu dis pas Najoui.
Oui, ça m'arrive. Je le rappelle, il m'avait signé avec ce bras un CD. Hein. Et vous avez ajouté, Nagui, donc vous avez poursuivi, mais bon, de toute façon, je peux plus reculer, je vais laisser faire notre féministe, notre chienne de garde de service, Leïla Kaddour, pour une fois qu'elle bosse dans cette émission, présence de Marine Delterme. Le terme lui donnera un peu de grain à moudre. Quant au pitch, comme d'hab, je demanderai au maréchal. Eh ben, justement, je suis là pour ça. Les pitchs des deux épisodes à venir sont simples. Par exemple, lanceuse d'alerte. Eh bien, il s'agit d'une alerte lancée par une dame. Quant à l'épisode Divine Compagnie, il me ramène à une période... Oui, j'en suis bouleversé, j'en suis ému.
Je sens que c'est une période douloureuse de votre...
Il me ramène à une période exaltante et douloureuse de ma vie martiale. C'était en 1943.
J'étais en
garnison à La Châtre.
Je suis pas sûr qu'on ait le temps.
Jeune officier de renseignement, j'avais pour compagne de chambrée, Désirée, une divine juge d'instruction, comme celle que vous incarnez, Marine, et qui, elle aussi, en avait dans le froc. Fallait voir, dans la salle de bain, comme elle obtenait les aveux des salopards qui refusaient de collaborer avec les vrais Français. À Libération, je suis passé dans la Résistance. Et pour éviter l'attente à Désirée, j'ai fait croire, en la cachant dans mon placard, qu'elle s'était enfuie. Plus tard, elle put reprendre du service, et comme elle avait remarqué que les policiers et les juges prenaient des noms de villes de province, genre commissaire Moulin, Alice Nevers, elle s'est fait appeler Désirée Lachâtre. Mais c'est une autre histoire, je sais, oui, comme celle de mon handicap, qui m'empêche d'ailleurs de rester assis avec vous plus de 3 minutes.
Voilà.
Donc je vous souhaite une bonne émission.
Merci beaucoup. Merci, Albert, à tous.
France Inter. La bande originale.
C'est malin parce qu'avec tes jeux de mots à deux balles, c'est moi qui suis le regard de Marine Delterme.
Et
tu tolères ça.
Et en plus, il l'écrit.
Et en plus, c'est écrit, c'est préparé. Oui, c'est ça.
Payé.
Très
Marine, longtemps à l'avance.
Marine Delterme, notre invitée pour, évidemment, parler de cette série à succès. C'est un carton plein, et tant mieux, et c'est mérité, parce que c'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien produit, bref, c'est agréable à voir. J'ai pas vu, je vais être très franc avec vous, j'ai pas vu tous les épisodes, mais j'en ai vu quelques-uns, notamment ceux de la semaine dernière, où même on a eu la chance de découvrir en avant-première, nous, les épisodes qui vont passer, puisqu'il y a deux inédits qui vont passer jeudi, puis deux rediffusions pour les gens comme moi qui avaient raté les épisodes précédent. C'est assez particulier d'ailleurs de mettre des rediffs parce que l'originalité à mes yeux de cette série, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont évidemment bouclées, il y a un crime ou un accident ou un problème qui arrive en ouverture de série et il y a le dénouement à la fin, mais il y a aussi une trame qui se noue entre vous et la police.
Oui, c'est particulier, mais ça c'est... Moi j'ai commencé il y a 15 ans. Donc, c'est la préhistoire.
Sans blaguer, il y a 15 ans déjà.
Ouais, Alice Nevers, ça commençait. Ouais. On était en 90 minutes. C'était complètement une autre. D'abord, des héroïnes qui étaient très différentes. C'était les héroïnes totalement positives à l'époque. Avec Julie Lescaut, on n'avait pas le droit d'avoir de vie privée. Justement, ils voulaient, comme ça, ils voulaient pas qu'on feuilletonne pour les rediffusions, justement. Ouais. Et quand est arrivé André Béraud à TF1, qui est un directeur de fiction qui venait du Canada, qui était peut-être plus ouvert. En tout cas, il a dit, écoutez, moi, j'étais enceinte dans la vie, je pouvais pas tourner pendant un an. Donc, il y a eu comme ça un creux qui a un peu angoissé tout le monde. Et j'ai dit, ils ont gardé l'idée de que je sois enceinte et que j'ai une vie privée et qu'on feuilletonne.
Donc, ils se sont servis.
Ça a complètement.
Grâce à votre maternité, ils se sont servis de cet événement pour.
Voilà, rendre... assumer ça et commencer une vie privée. Ce qui
crée un lien.
Des épisodes.
Et
voilà,
créer un lien, finalement. Parce que c'est ça, la force. C'est qu'on se demande, là, en l'occurrence, si l'adoption de la petite Ada va se réaliser, si oui, comment ou dans quelles conditions. Mais ceux qui débarquent en plein milieu de la série, justement, sans avoir découvert les atermoiements affectifs dans votre vie privée, ne sont pas forcément non plus largués.
Non, parce que je ne sais pas quoi vous dire. Je sais qu'il y a un système aux États-Unis, avant chaque épisode, on fait un récapitulatif de la semaine d'avant.
Previously on Alice Never.
Mais écoutez, je pense que ça roule puisque tout le monde revient d'une semaine à l'autre. Mais oui, en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir commencer moi dans ces séries à feuilletonner, à raconter une histoire. Et je coécris les histoires privées, c'est un bonheur à chaque fois. Là, maintenant, à la fin des diffusions, de m'asseoir avec Claire Alexandra Kiss qui écrit la vie privée, qui est directrice de collection, dire qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer l'année prochaine pour étonner tout le monde.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut pas non plus boucler la vie privée. C'est-à-dire qu'il faut pas dire le but étant d'adopter cette petite fille Ada, et une fois que l'adoption est faite, il faut passer à autre chose.
Il y a quelque chose qui est très ouvert, c'est qu'on finit quand même par un mariage à la fin de saison, parce qu'il y a aussi un personnage important.
Ah bah tu
lances
tout, toi.
Non, mais on le sait, mais qui
c'est
est
la condition pour l'adoption.
Mais c'est la condition. Mais oui, mais il peut y avoir un rebondissement.
Ah, mais il y aura des rebondissements, ah, voilà. T'inquiète pas.
La saison prochaine.
Peut-être que c'est un mariage blanc, peut-être que c'est bidon.
Exactement. Mais en tout cas, il y a aussi Jean-Michel Zinivelli qui joue mon partenaire, qui joue Marquant. Il y a beaucoup de. Voilà, l'histoire d'amour est aussi compliquée et rigolote.
Alors justement, Jean-Michel Zinivelli qui joue Fred Marquant, ce commissaire, pour resituer les liens. C'est un ex, c'est un futur, c'est un permanent, c'est un alibi.
C'est tout à la fois, c'est merveilleux. Non,
vous voyez.
Oui, ça c'est très bien. Ouais, ça c'est bien. D'ailleurs, on va être obligé de se marier, donc c'est justement un mariage de raison, mais qui n'en est pas un, puisque finalement, comme on tricote beaucoup l'un l'autre autour de cette relation amoureuse depuis des années. On se tourne autour. Moi, j'ai toujours d'autres hommes qui sont un peu improbables. Il est un peu comme ça en attente. Et là, il se trouve qu'il faut que je me marie avec lui, alors qu'il a enfin une histoire d'amour. Donc c'est un peu un homme comblé cette saison. Il a deux femmes. Et d'où les enjeux,
ah,
d'où la complication.
C'est ça la définition de l'homme comblé.
Mais il a deux fois plus d'ennuis aussi.
Non, mais il dit qu'il avait rien, et là, il a tout. Il a beaucoup, en tout cas. Mais donc c'est très drôle. C'est très drôle à faire pour
vous,
ça.
Non, mais en plus, vos caractères sont différents. Vous avez le calme, le recul, la réflexion de la juge. C'est la Bible, en fait, de ce personnage. Et puis avec quand même toujours dans le mouvement, pas du tout bloqué derrière son bureau à éplucher des dossiers, mais à vouloir être sur le terrain. Et lui, on est sur nerveux. On a l'impression qu'il a pris de la coke toutes les 10 secondes, tellement il parle vite.
Ah, vous avez vu les épisodes aussi où il pète un plomb.
Oui,
ah oui,
bah oui.
C'est particulier.
Ça fuse, fuse. Ça joue aussi sur ce chaud froid qu'il
Bien
peut
sûr.
Y avoir aussi entre vous.
Mais c'était une chance que Jean-Michel arrive dans la série il y a 8 ans, quand justement on est passé aux 52 minutes. Certaines séries sont mortes à ce moment-là, ont disparu. On a fait La Mue, grâce à Pascal Brugnot aussi, qui est une productrice incroyable.
Productrice d'Ego, ouais.
Ouais. Et donc on n'a rien lâché. On est passé aux 52 en changeant tous les acteurs, en changeant le look, tout, en recréant quelque chose. Et Jean-Michel est arrivé. Et c'est vrai que Jean-Michel, c'est comme dans la vie, tous les deux, on s'adore, on s'engueule tout le temps, on est chien et chat, et on est presque impossible à travailler ensemble, et on se bat pour y arriver. C'est-à-dire que lui est un instinctif qui ne veut pas bosser les scènes, qui arrive comme ça, avec sa grosse voix. Moi, je suis une empêcheuse de tourner en rond, je décortique, je cherche. Et toute cette alchimie-là, comme dans la vie, elle passe à l'écran, et voilà, et ça, c'est un plus pour la série, ouais, c'est sûr.
Et à partir de quand la série a changé de nom, on est passé à...
Ah oui, ça c'était important. Ça,
la juge est une femme, avant c'était le juge.
Non, c'est Alice Nevers. Le juge est une femme, et enfin, il y a je crois 2-3 ans, Fred Mondé, Catherine Roux qui est là, mais on a enlevé le juge est une femme, parce que c'est quand même assez ridicule, parce que déjà en plus en majorité, dans ces professions-là, c'est des femmes, et puis on n'est plus, heureusement, on n'en est plus là, quoi.
Vous avez parlé
d'une... Ça a failli s'appeler Le juge est une bonne femme.
Ou bobonne. Vous... Enfin... Est-ce que vous prenez la plume, vous l'avez dit, est-ce que vous mêlez des intrigues et de la deuxième grande intrigue, j'allais dire celle de la vie privée, ou uniquement de, oui. de la vie privée?
Non, moi je m'occupe beaucoup de la vie privée en fait. En fait, moi j'arrive, je viens du cinéma, j'ai fait 10 ans de cinéma avant d'accepter cette série, et en plus j'ai fait du cinéma avec, même si je travaille avec Gérard Rouy, des gens comme ça très un peu formatés et plus. J'ai quand même travaillé beaucoup, j'ai commencé avec Godard, je travaille avec Pialat, je travaille avec Cyril Collard, je travaille avec des gens libres en fait. Et pour moi, le cinéma c'est la liberté. Et quand je suis arrivée à la télé, je me suis dit que j'allais continuer à essayer d'être libre, et pourtant c'était plus formaté. Donc mon travail...
Oui, mais c'est des codes à la télé qu'il faut respecter, oui, notamment voilà. pour ne pas heurter telle ou telle tranche du public. Il faut être consensuel, plaire à tout le monde.
Voilà, ce qui était les personnages voilà. qu'on va faibler. Mais la liberté aussi du vrai, en fait. Jouer pour moi... Enfin voilà, jouer, c'est être vrai. Donc le travail, d'abord en dehors de l'écriture, où je travaille aussi à l'écriture avec Claire, et on invente des choses et on travaille les dialogues, etc. C'est aussi tous les jours de pas être fixé sur quelque chose, de recevoir les guests... Pour qui c'est difficile de venir sur ces séries parce que
Pourquoi
c'est parce que c'est ils ont très peu de jours, ils ont souvent des scènes difficiles, fortes quoi, dures, parce que Alice Nevers c'est un mélange qui est comme ça un peu particulier, c'est la seule série comme ça, c'est à la fois toute notre partie privée qui oxygène avec tout l'humour, le charme, ouais. etc. qu'on essaye de mettre, et
la,
à côté il y a quand même
vie,
voilà ouais. et à côté il y a des enquêtes où ça c'est la marque de fabrique de Pascal Brugnon qui a toujours été très proche de qui a créé quand même une forme de télévision hein, qui
ouais.
est le
un peu psychanalytique aussi
voilà,
et intime ouais.
Voilà. Et donc, c'est des enquêtes sociétales. C'est-à-dire qu'on découvre à chaque fois un sujet de société, on apprend quelque chose, c'est toujours un peu dur. Enfin, c'est quand même des histoires qui sont violentes. Donc, les guests arrivent, les pauvres, sur un. Et moi, je suis quand même là pour les recevoir, les mettre. Et qu'il se passe quelque chose de vrai. Voilà. Donc, parfois, on oublie, les textes sont là, ils sont très bien, mais parfois, on peut inverser, changer. Voilà, on malaxe tout ça et on fait que ça soit
le vrai,
vivant et fort.
Le vrai, pour parler par exemple du premier épisode qui passera demain, sans dévoiler ce qui va se passer, et c'est la lanceuse d'alerte, hein, le soutien. Ouais. titre, entre guillemets, qui est donné à cet épisode. Le vrai, justement, c'est pour aussi donner une forme de morale, pour donner une forme de temporalité, pour vivre avec son temps, puisqu'il y a des vannes qui sont faites autour des Panama Papers, je crois, autour de quelques dossiers qui ont
ouais.
été...
Oui, oui, bah, on apprend. Moi, j'apprends toujours quelque chose, en tout cas. Quand j'ouvre un scénar d'Alice Nevers et que je le lis, j'apprends des choses que je ne savais pas. Voilà, on a traité beaucoup de sujets cette saison.
Non, il y a une vanne qui est faite, j'ai oublié les noms des deux lanceurs d'alerte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit, c'est bien, elle est lanceuse d'alerte.
Et
je crois que c'est Tinivelli qui dit, enfin, le commissaire Marquand qui dit, ouais, t'as raison, regarde ce qui s'est passé pour Assange. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, les deux lanceurs d'alerte, là, qui ont des problèmes, qui sont.
Manning? Non, tu parles pas du soldat américain qui a donné les informations.
Ah oui,
Il y a deux noms qui sont souvent dits, pardon de les avoir oubliés, souvent dits dans l'actualité, qui sont shootés. Et je me dis, waouh, il y a presque une prise de risque d'ailleurs à coller autant à l'actualité, parce qu'il suffit, mais qu'il se passe quelque chose pour eux dans la vraie vie pour que ça devienne obsolète dans la série. Vous êtes au plus proche, en tout cas.
Ah oui, on avait eu ça l'année dernière sur les jeunes femmes là qui partent en Syrie, enfin toutes ces jeunes filles qui sont débauchées,
embrigadées par Daesh.
Et il y avait juste, la veille, encore un temps. Oui, on colle, on essaye de parler de tout ça, quoi. Et qu'on apprenne quelque chose sur notre société.
Alors qu'on apprenne quelque chose, ça fonctionne. Qu'il y ait une morale aussi, qu'il y ait à la fin, en tout cas, une leçon à tirer.
Ça, on a évolué parce qu'avant, il y avait plus de morale. Ouais. Et moi, j'avais toujours un peu la petite phrase de fin. Et ça, je le fais plus. Et on le fait plus, donc on reste plus ouvert. Et voilà, c'est compliqué quand même, la vie.
La vie est compliquée.
Donc voilà, on est sorti un peu de cette facilité-là, je trouve. D'essayer d'asséner une morale aux gens. Et après, les gens reçoivent ça comme ils veulent. D'ailleurs, il y a un moment, et par rapport aux enquêtes, on a beaucoup ce regard aussi de Jean-Michel qui a un avis, moi un autre. On n'est pas d'accord. Et ce qui représente un peu ce que sont les gens devant leur télé, c'est un couple qui regarde la télé, il va dire, voilà, ça, je trouve, ouais, ils ont aussi un jugement. Et on représente un peu les deux côtés du...
15e saison, en attendant la suite, hein, puisque on a déjà compris que...
Il y a du mariage, il y a du divorce, il y a de la tromperie.
À savoir, tu peux pas... Et peut-être qu'elle va retomber enceinte encore, et peut-être qu'il va se passer plein de trucs.
Deux fois dans l'année.
Oui.
La magie.
Comme les chats.
C'est juste extraordinaire.
Ça sera le... bon, enfin, j'ai dit non. Ok, ça s'est vu. J'ai vu dans le regard de... Non, tais-toi, Nagui. Ok, très bien, je me tais. Marine Delterme est notre invitée. Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous annonçait sa venue.
Oui, quand je pense à vous, Marine Delterme, vous l'avez un peu évoqué. C'est votre carrière au cinéma et notamment un film fort qui a marqué une époque, une génération.
Tu trouveras personne. Personne qui t'aime autant que moi.
Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Tu sais ce que ça veut dire, aimer, toi?
Je l'ai su. Essaye pas de t'éloigner de moi pour me sauver.
Les Nuits Fauves de Cyril Collard, là, on entendait la voix de Romane Boringer. Est-ce que vous aviez la sensation, à ce moment précis, Marine Delterme, c'était en 92, que vous étiez engagée dans une aventure, dans un film qui allait devenir générationnel et quasiment indépassable sur le sujet?
Oui, parce que bizarrement, je revenais de New York, j'étais mannequin à New York, ces années très joyeuses et en même temps déjà très dures puisqu'il y avait le sida qui débarquait. Et à New York, c'était encore plus fort qu'en France. Et en plus, moi, je travaillais dans la mode, donc j'ai vu tomber beaucoup de... J'ai vu mourir beaucoup de gens, en fait. Donc, il y avait quelque chose de très violent. Il n'y avait pas encore la trithérapie. Donc, c'était des gens qui étaient en plus physiquement très atteints. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment eu des images fortes, enfin, de gens, voilà, que j'ai vu mourir. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, ah, ben voilà, Cyril fait ce film là-dessus. Et j'étais tellement... concernée et dedans que c'était je me suis pas dit c'est un film qui va marquer ou pas, mais en tout cas c'était urgent et important de le faire, et puis c'était tellement l'actualité que c'était, et Cyril c'est un homme étonnant, ouais. Voilà.
Pourquoi étonnant?
Parce que il m'a, en fait, j'étais dans un café avec mon amoureux et on se séparait, ou je sais plus, enfin une énième séparation, et je pleurais. Et il était à côté avec Corinne Blue.
On va pas citer comme ça, comme des cons, on s'est dans en bas, quand même.
Voilà. Et il était à côté, et je savais pas qu'il était à côté, et Corinne Blue, qui était sa compagne, à qui il a fait Les Nuits Fauves, qui a fait la direction artistique, qui était prof de théâtre, j'ai fait un stage après avec elle, avec Valéria Bruni, qui m'a amené un peu dans tous les stages pour travailler. Et il a dit, je veux voir cette fille, parce qu'il a vu les photos, je me souviens, je l'ai vue dans un café, elle était complètement... Ça m'a marqué, elle pleurait. Donc il m'a pris sur ça, c'était drôle, Cyril était dans la vie, c'était l'assistant de Piala avec qui aussi j'ai travaillé. Donc c'est quand je parlais de liberté dans le cinéma, c'était voilà, des gens qui faisaient rentrer beaucoup la vie dans... devant une caméra.
Et qu'est-ce que vous avez appris sur ce tournage, justement, en termes de... Parce que voilà, votre pratique d'actrice, elle se perfectionne à chaque rencontre, j'imagine.
Ça, j'ai revu des extraits l'autre jour. D'abord, je suis pas la même personne. J'ai pas la même voix. J'ai complètement changé de voix. J'étais un petit oiseau perché sur la manche, quoi. J'étais pas finie. Mais j'ai appris. C'était des scènes difficiles en plus avec Cyril. C'est avec un autre garçon. Moi, c'était dur, ouais, de le voir. Il était déjà malade. C'était fort et dur.
Tout le monde le savait sur le tournage.
Oui, bien sûr, tout le monde le savait. Et puis, il avait, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à l'époque, les malades sans trithérapie avaient des psoriasis, des choses comme ça, donc des maladies de peau assez impressionnantes. Ouais. Donc voilà, moi, j'étais sur la sensualité avec lui, une scène comme ça, il y avait la maladie qui était portée, quoi, par lui.
C'était visible, oui, c'est ça.
Alors que lui, par contre, sa personnalité, son énergie, il était incroyablement vivant. Voilà, donc,
c'est vrai que c'est un film de génération, tu as raison. Ouais,
c'est un film qui marque, c'est un film qui... Alors là, on entend parler beaucoup sur La Croisette,
Cannes,
du film sur ACT UP.
Qui est un très bon cinéaste, à mon avis, c'est un film très fort.
Et je pense que ça peut être un film qui peut égaler d'une certaine façon Les Nuits Fauves, mais sans doute pas le faire oublier, parce que c'est quand même un film qui laisse des traces, en fait. Et j'imagine que pour vous aussi, figurer au casting, c'est pas rien.
Oui, non mais...
Mais le cinéma pour vous, c'est raconter des histoires ou c'est raconter la vie?
Le cinéma,
ouais.
C'est raconter des histoires. C'est raconter des...
Parce que le point commun de tout ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on voit que c'est vous avez l'air d'aimer, ou en tout cas vous êtes souvent appelé sur des choses très concernantes, très presque réalistes, et pas forcément des histoires de princesses ou des contes totalement imaginaires.
Ouais, ça a été un choix aussi, parce que il y a un moment de ma vie où j'ai arrêté de travailler pour des raisons personnelles, et avant j'étais aussi dans les comédies, Michael Cull, tous les trucs comme ça, je faisais la jolie actrice de comédie de service, et il y a aussi un moment où j'ai vécu des choses dans ma vie où je pouvais plus jouer ces rôles là, donc j'ai voulu aller vers autre chose. Vous ne vouliez plus? Je pouvais pas, j'avais vécu des choses très dures, donc c'était dur pour moi de retrouver une légèreté. Mais après, le cinéma, c'est raconter des histoires, parce que si c'est pas, si on n'a pas l'angle et si on n'a pas la bonne histoire, on n'intéressera personne. On peut essayer de faire des choses très fraîches et très vivantes. Pour moi, c'est vraiment l'écriture qui importe.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que vous passiez du monde du mannequinat dont vous parliez tout à l'heure, où tout n'est que paillettes, strass et mensonges.
Ah,
de notre point de vue. Non, ouais. Vous vendez du faux. Ouais. Vous vendez du rêve. Vous vendez de la soi-disant du bonheur. Et je préfère même pas savoir ce qui se passe derrière. Mais non, mais c'est vrai. Parce que
pourtant, c'est important de savoir ce qui se passe derrière.
On n'en parle pas assez, d'ailleurs. Tout entendu sur les malheurs des unes et des autres dans ce milieu-là, les manipulations, peut-être les manipulations psychologiques qui peuvent être faites.
Moi aussi, quand j'ai commencé, j'ai été dans une agence et j'ai pas du tout apprécié ce qu'on m'a demandé de faire des photos à minuit en maillot de bain dans une salle de bain. J'ai dit, tiens, c'est quand même bizarre. Heureusement, j'ai arrêté. On m'a dans la rue, on m'a redit. Et là, j'étais dans une agence de mannequin avec des dames. Donc, une chose. Mais c'est déjà un milieu qui peut être très malsain parce qu'il y a des femmes très jeunes. C'est des jeunes filles qui ont à peine 15-16 ans, qui arrivent du monde entier, qui sont complètement perdues.
Et qui ne savent pas ce qui est normal ou pas normal.
Non, elles n'ont pas de
cadre. Ouais.
Oui, il n'y a pas de cadre. Et puis.
Et certains profitent de ça.
Bien sûr. Mais ça, c'est. Connaît l'âme humaine, mais par contre, il y a aussi ces problèmes-là plus récents de la maigreur que je trouve très. Moi qui ne me plaise pas du tout, je trouve très inquiétant. Il y a eu des lois, mais enfin, bon, les gens ne suivent pas forcément les lois.
Oui, on voit encore quelques défis.
On voit
des défis qui font peur.
Ouais. C'était déjà le cas quand vous étiez mannequin?
Non, justement, dans les années 90, c'était génial parce que c'était les belles. Moi, je suis très ronde. On a eu la chance. Moi, je suis arrivée au bon moment. Il y avait Claudia Schiffer, il y avait Yasmine Gori. C'est des femmes, Claudia Schiffer. Oui, c'est ça. C'est des
Naomi. Ouais, les grosses, quoi.
Ouais, c'est des énormes.
Oui, par rapport
des femmes. Mais voilà, sensuelles.
Les Cindy Crawford, oui, c'est ça. Ouais. C'était, ouais.
Elles étaient
vivantes.
Elles avaient des formes.
Elles étaient très bonnes. Voilà.
Mais donc, je voulais simplement dire avant que nous nous énervions tous autour de cette table sur les formes des femmes. Passionnante. Mais que vous passiez du monde du rêve vendu, en tout cas, qui vendait du rêve du mannequinat, à la réalité du cinéma. Même là, pour Alice Neuver, vous voulez que ce soit toujours ancré dans une réalité de vie quotidienne qui fasse écho à celles et ceux qui le regardent. Sentiment de cette nécessité, en tout cas, d'être proche d'une réalité.
Oui, parce que jouer, c'est lâcher prise. Donc jouer, c'est être soi sans le savoir et c'est donner du réel, quoi. Donc même si...
Ça peut être aussi donner du rêve. C'est mentir aussi le cinéma.
Oui, bien sûr. Oui, certaines formes de cinéma, par la lumière, par le cadre, par le mystère du cinéma, d'ailleurs, amène quelque chose. Mais vous dire que je préférerais les films comme ça, plus engagés.
C'est une question.
Moi, j'aime tout. Là, j'ai fait une comédie romantique.
Puisque vous écrivez, donc c'est vous qui mettez aussi ce que vous voulez dans le.
Moi, je suis compliquée. Hein, j'ai beaucoup de facettes, on va dire. J'aime autant une comédie romantique comme j'ai faite avec Pascal Elbé, le mec de la tombe d'à côté, où j'adore ça, que oui, les films plus forts, engagés. Plus... Oui, enfin, j'aime tout. Enfin, le cinéma, quand on aime le cinéma, de toute façon, comme la vie, hein, y a plein de moyens de rentrer, plusieurs portes en tout cas, pour entrer dans le cinéma.
Alice Neuver, donc deux nouveaux épisodes et des inédits passeront ce jeudi soir à 20h55 sur France 2, suivi par deux... J'ai dit France 2,
sans blaguer.
Je suis désolé, sur TF1. Non, ça s'appelle le problème...
Le non-professionnalisme,
je sais pas.
L'amateurisme.
Ça s'appelle l'amateurisme. Donc c'est sur TF1, je vais arriver à le dire.
C'est dur, hein.
Et c'est jeudi soir.
Tu as fait une sublette, là.
À 20h55. Elle l'a fait, Alessandra, ça. Elle a fait un dérapage.
Bon, on le fait, Alessandra. Oui, elle est charmante, elle est géniale.
Mais on l'embrasse au passage.
Ah oui, on l'embrasse fort.
Voici l'humeur. Mais oui, on l'embrasse. Voici l'humeur de Tom Villa.
Ce matin, les copains, je viens de me rendre compte que le couple présidentiel Macron est un couple comme les autres. Vous savez, ils ont intégré l'Élysée le dimanche 14 mai dernier, vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Élysée, c'est une charmante résidence en plein Paris, bâtisse 18e, 12 000 m², jardin orienté plein sud, centrale proche tout commerce, pratique quand on veut voir le défilé du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France. Bref, comme on le dit dans le Figaro immobilier, un bien d'exception. Mais... Les Macron n'ont pu emménager que cette semaine, parce que pour le dire poliment, il y avait un peu de rangement à faire. Car d'après le journal d'investigation Gala, François Hollande aurait laissé le palais présidentiel dans un état de délabrement très avancé.
Tu veux dire quoi, c'est sale ?
Je vais vous expliquer. Pourtant, après sa non-candidature en décembre dernier, on aurait pu imaginer qu'il avait 5 mois pour rendre la baraque propre. Et là, c'est toujours con de laisser son chèque de caution juste parce qu'on n'a pas changé le pommeau de douche et changé les joints de la baignoire. C'est ballot. Alors, on l'accuse de pas l'avoir entretenu, l'Elysée, et en même temps, on imagine mal Hollande aller personnellement le dimanche au Leroy Merlin de Beaubourg, acheter de la Deluxe Valentine et mettre un coup de peinture avec Philae le Labrador qui joue avec les pinceaux entre deux préparations de réunion avec Merkel.
Tu vois, avant l'état des lieux.
Et en même temps, ça la fout mal. C'est la maison des Françaises, ça représente notre pays. Déjà qu'on a l'image de crado quand on va à l'étranger. Tu reçois Merkel à bouffer, tu peux mettre un coup de Swiffer. Ah, François, c'est pas une toile d'araignée dans le coin là-bas? Non, non, vous inquiétez pas, Angela, les araignées dans la maison, c'est sain. Alors ça, c'est la phrase des mecs qui font pas le ménage. Non, les araignées, c'est sain, ouais. Les grosses fourmis, ça entretient le parquet. Voilà. Non, mais... Alors d'après Gala, on apprend que le plus gros problème de l'Elysée qu'ont rencontré les Macron, ce sont les fuites d'eau.
Bah, c'est un vieux bâtiment.
Oui, mais enfin quand même. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris qu'il y ait des fuites d'eau après le départ de François Hollande? Hollande, il s'est pris des litres de flotte sur la truffe pendant 5 ans. C'est normal qu'il laisse un petit dégât des eaux dans la salle de bain. En plus, comment ça a pu se produire une fuite d'eau à l'Elysée? Attends, Julie, viens, on refait comme dans le film là, qu'on a vu hier soir. Bonjour mademoiselle, c'est le plombier. Okay. Merde, Julie, va éteindre l'arrivée d'eau. Comment ça, elle est où? Mais quelle est con. Dans le garage, entre mon scooter et le bouton nucléaire. Voilà. Non mais ce qui a aussi retardé l'arrivée des Macron, c'est trouver la bonne solution pour se reposer. Comment bien se reposer à l'Elysée? Parce que pour pouvoir dormir sereinement dans leur nouvelle chambre à coucher, d'après Gala encore, Emmanuel et Brigitte Macron ont changé le matelas de la chambre présidentielle. Et ça, on les comprend. Disons que quand tu vas à l'hôtel, tu te doutes de ce qui s'est passé avant ta nuit, mais tu n'as aucune preuve. Là, j'imagine Brigitte en train de lire Closer chez Coiffe Mode au Touquet et voir le défilé. Chérie, je te préviens, dès qu'on arrive, on change le matelas. Je vais sur Conforama.fr, je vais commander un Epeda Multispire à ressort en sachet. En plus, coup de cul, on t'accusera pas de trouver le budget français. La livraison est offerte jusqu'au 24 mai. Donc voilà, ça tombe bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit pour l'état de l'Elysée ou pour l'état du Parti Socialiste, a priori, François Hollande, il va pas récupérer sa caution. Bonne journée.
Merci, Domino.
La bande originale, Nagui.
C'est vrai, on s'est jamais posé la question de savoir s'il y avait un état des lieux avant le mec qui arrive, le mec qui repart en disant.
Est-ce que tu remets du dentifrice dans les trous pour les clous, pour boucher?
Ça sent le vécu. Le prochain locataire qui passera par chez Tom Villain, c'est.
Ça sent le Colgate.
Exactement. Alice Nover, c'est sur TF1, ça sera jeudi. Donc demain à 20h55, deux nouveaux épisodes, deux inédits, puis deux rediffusions. Vous voyez d'ailleurs le personnage évoluer tant dans les tenues vestimentaires, les accessoires, les coiffures.
C'est gentil. Quand on voit les rediffs, surtout.
Non, c'est ça ma question.
C'est horrible. Ah, non, mais des fois, avec Jean-Michel, on se dit, t'as vu, il y a un truc d'il y a 10 ans, quoi, un truc horrible, on est tout jeune, tout. Il y a le temps qui passe, quoi, on voit plein de périodes, c'est comme ça.
La première chose, en tout cas, que j'assume de vous avoir dit en vous voyant ce matin, je vous ai trouvé absolument splendide, rayonnante. Et pour avoir vu l'épisode avant-hier, il y a un côté plus straight, on va dire, plus tendu.
Ouais. Je me rends pas compte parce que c'est quand j'arrive sur le plateau, c'est vrai que ça doit être mon personnage que je tiens bien depuis quelques années. J'ai une autre.
Dans la vie, vous avez 10 ans de moins.
Bon, c'est gentil.
Non, mais c'est vrai.
Enfin, de l'arrivée en tongs et en jogging, Marine, quand même, c'est un peu déplacé.
Non, moi, ça m'a plu. voici la bande originale de Marine Delterme, c'est-à-dire quelques dates comme ça que nous avons prises et que nous avons mises en musique. On va commencer évidemment par 1970. Alors pourquoi Dire Straits viendrait symboliser votre éducation, vos années d'enfance?
Parce que j'étais fille unique, parce que j'étais rêveuse, comme tout, voilà, seule, et que l'été je passais du temps avec mes cousins. J'ai beaucoup de cousins dans ma famille, que des garçons qui m'ont éduquée et qui m'ont fait découvrir toutes ces musiques. Et je suis très, moi j'adore la musique. J'ai passé des heures à attendre quelque chose, je sais pas quoi, mais cet album il m'a marqué.
Entre autres, ah oui, non, mais il y a des morceaux absolument, des envolées de guitare de Marc Knopfler absolument merveilleuses. Ça vous a donné envie de jouer d'un instrument?
Je joue d'un instrument, oui. Je chante et je joue du piano.
C'est cette musique-là qui vous a donné envie?
Non,
ou quel a été le déclic?
J'ai commencé à 6 ans, moi, à faire du piano. Je fais beaucoup de piano. Non, c'était en fait c'est ces heures d'attente quand on est adolescente et que voilà, qu'on attend que quelque chose se passe et on écoute beaucoup de musique.
Et qu'un garçon vienne avec une guitare et que d'un coup on trouve tellement séduisant, tellement il joue bien avec la guitare.
C'est sûr que ça marche.
Ça marche.
Ah oui. Non, ça marche.
Dites-elle à Leïla, non. Elle, c'est la darbouka. Elle,
ah oui,
non, le mec non, avec une darbouka.
Non, 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 c'est moi, ça m'a jamais marché avec
Leïla,
moi.
Il faut arriver avec ton piano pour que Leïla...
Une harpe. Pas du tout, non, ça, si. Ça a marché plus tard, mais...
Jean-Jacques Goldman...
Ah non, pas du tout.
Jean-Jacques Goldman l'a dit, mais j'adore l'idée de savoir que Jean-Jacques Goldman s'est mis, lui qui était en train de travailler dans le magasin de sport de ses parents...
Saint-Étienne, c'est ça?
Non, c'est à Montrouge. À Montrouge, dans la région parisienne, à régler des cordages de raquettes de tennis, à se dire c'est pas comme ça que je vais y arriver avec les filles, donc je vais apprendre à jouer de la guitare.
C'est un malin, Goldman.
C'est un malin.
Et... Les sportifs aussi, ça marche, les sportifs.
Oh, c'est moins drôle.
Ça dépend du sport.
Ça dépend.
Les catcheurs.
Voilà.
Ça marche. Non, il y a un côté poésie, il y a un côté mélodieux.
C'est chouette,
aussi.
Les musiciens. Ouais, c'est un beau, c'est un bel univers.
Je suis d'accord.
Non, ils sont
c'est
merveilleux.
La promesse, en tout cas.
Ah, oui, la promesse, ouais.
Est-ce que quand on est la seule fille unique, la seule fille qui traîne justement avec des garçons, le regard des garçons, est-ce qu'on devient un garçon manqué soi-même?
J'étais un garçon manqué, moi.
Mais c'est pour cacher justement le fait de ses formes féminines, pour cacher sa beauté?
Oui, à un moment où j'ai un peu mal vécu le passage à l'adolescence, mais surtout, non, moi j'ai beaucoup d'énergie, c'est un peu mon problème, j'ai trop d'énergie, j'ai trop de vitalité, j'ai même parfois une forme de brutalité, donc moi l'énergie masculine me convient assez bien, donc voilà, je sais pas, je suis sportive, je sais pas, j'étais complètement dans ce monde-là et ça m'allait très bien, et après, quand le corps devance un peu l'âme, c'est plus compliqué, il y a des périodes plus dures pour les filles à l'adolescence.
C'est vrai qu'à l'adolescence, vous mettiez l'été des collants en laine.
Ouais.
Sans blague.
Il en pose des questions.
Mais non, mais parce que j'avais un.
Non, mais je mettais ça au mois d'août, ce qui était un peu un problème.
Au mois d'août,
je ne voulais pas montrer un centimètre de peau.
Et pardon, avant de devenir mannequin, c'était avant de se retrouver en effet en maillot de bain dans une baignoire la nuit à faire des photos en disant mais qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui me paraît bizarre.
Oui, c'est vrai que c'est drôle que vous disiez ça parce que je supportais pas mon corps, le regard des hommes sur ce corps-là. Donc je me cachais, l'été j'étais avec des pulls, des collants, etc. C'était une catastrophe. Et puis un jour j'ai vu un jeune homme jouer de la batterie et je suis tombée amoureuse de lui. Et j'ai dit faut que je fasse quelque chose là. Donc voilà, je suis arrivée en seconde, très bien.
Pour Nagui, le batteur n'est pas un musicien.
C'est toujours une vanne, c'est toujours la même vanne.
Parlons de Manu Katché et des autres.
Voilà. Mais non, c'est toujours la célèbre vanne que l'on fait sur le plateau de Taratata et sur beaucoup de plateaux. Ouais. Bah, c'est à la coupure repas, on dit coupure repas, tous les musiciens en catering, le batteur aussi. Voilà, c'est un truc qui vient régulièrement, mais qui... Or, les musiciens et les batteurs connaissent le solfège et lisent des partitions de musique aussi. Et une batterie, ça s'accorde, ce que beaucoup de gens aussi ignorent. 1988, vous écoutiez... Les Rolling Stones qui reviennent en concert d'ailleurs les 19, 20 et 25 octobre, si ma mémoire est bonne, sur Paris. En tout cas, les Stones,
incroyable.
C'est incontournable.
Incontournable. Moi j'ai toujours été plus Stone que Beatles. Et comme en plus j'ai la chance de les croiser à New York, les connaître un peu, c'était fantastique.
Via Carla ?
Ouais, c'était incroyable.
Carla Bruni, il faut expliquer.
Carla Bruni, vous étiez ensemble colocataire à New York dans vos années de mannequinat. Et donc vous croisez Mick Jagger, vous étiez fan, entre guillemets, vous admiriez les Rolling Stones avant de les rencontrer en vrai?
Ah, bah oui, bien sûr. Moi, j'écoutais plein d'autres groupes, mais oui, j'étais fan des Rolling Stones. C'était l'album Mixed Emotion, c'était cet album-là. Ils étaient en plein tour. Enfin, ils faisaient
c'était l'album de Miss You?
Ouais, je crois que c'est Miss You,
Ou Emotional Rescue.
Emotional Rescue, c'est celui-là. C'est ça. Exactement. Et c'est juste encore moi qui aime la musique et les musiciens. C'est une façon d'aller dans les concerts, grâce à lui, de voir un peu les répétitions, de voir d'autres musiciens et de croiser aussi des grands musiciens hein, comme Bob Dylan, plein de gens que j'ai vus. Et quand t'as 18 ans, c'est juste de loin comme ça, c'était chouette.
L'album de Miss You, c'était Some Girls, pardon pour les fans des Stones qui vont évidemment me pourrir sur Twitter. Et donc Emotional Rescue sur l'album
Un spécialiste.
Mais c'est important de resituer tout ça. Et à ce moment-là, dans ces années 88, donc mannequin à New York, vous posez devant à la fois peut-être des sagouins qui essayent d'abuser de leur situation, de leur pouvoir de photographe, ou qui vous demandent des choses que vous ne vous acceptez pas, mais aussi devant des noms incroyables, Peter Lindbergh, Dominique Isserman, Richard Avedon, c'est-à-dire des signatures de la photographie, des artistes.
Oui, parce que moi je suis une visuelle, je suis venue au cinéma par l'image, pas par le texte, pas par le théâtre, et je sculpte et je peins et je dessine aussi depuis ma plus tendre enfance, et donc j'étais venue à la mode par les photos de mode, mais par les grands photographes que j'admirais, dont j'y connaissais tous, je connaissais leur univers, je trouvais ça fascinant de voir la beauté incarnée dans un univers comme ça, et donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance de travailler avec eux. J'ai fait ça très peu, j'ai fait ça deux ans de mannequinat, deux ans et demi, et je les ai à peu près tous...
En deux ans, vous avez réussi à parquer
Edmund Newton, à qui j'ai pas travaillé.
Parce que vous ne vouliez pas, c'était trop
choquant? Non, pas du tout, j'aurais adoré, mais
il m'a pas pris. Elles sont pas simples, les photos d'Edmund Newton.
Ouais, elles sont fortes, elles sont bien.
J'adore,
j'adore le côté photo, avec les scanners, l'intérieur du corps et tout, assez fort. Mais donc j'ai eu la chance de travailler avec eux. Donc ça, c'était un grand plaisir de poser pour eux.
Qu'est-ce qui fait la différence dans le travail avec un photographe comme, Richard Avedon, par exemple, et Dominique Isserman, homme-femme? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Le regard d'un homme, le regard d'une femme est totalement différent?
Ils sont tous différents. Alors là, ce serait Hélène Mondoumverte, c'est encore autre chose.
Comme chaque être humain.
Exactement, Bettina Reims, elles ont toutes. Alors les femmes photographes, surtout maintenant, il y en a peut-être plus. À l'époque, il y en avait peu. Elles ont des personnalités très, très, très fortes. Elles sont très dirigistes. Les hommes, parfois, Lindbergh, soit laissent un peu les choses venir en un regard peut-être plus doux. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est des femmes exceptionnelles. Et moi, j'aime bien les femmes fortes, donc j'ai pas de soucis.
Est-ce qu'il y a une photo que vous avez faite pendant ces deux ans qui est pour vous, entre guillemets, la photo idéale?
La photo Peter Lindbergh, un beau portrait.
Elle était comment?
Elle est nostalgique, elle est belle, elle est un peu en noir et blanc. J'ai un visage que je ne connais pas de moi en fait, assez déjà plus âgé, quelque chose d'assez nostalgique.
T'es sûr que c'est vous?
Oui.
En 1900, je vais retrouver la date suivante que j'ai. Oui, 1992, on arrive au Nuit Fauve. Mila qui est en train de chercher la photo.
C'est une photo Marc qui se passe. Ça. C'était joli. Non.
Les Nuits Fauves, le début de la carrière donc au cinéma, de clapiche à Michael Cole pour essayer de balayer justement tout ce que vous avez vécu. Est-ce que, comme vous l'avez raconté tout à l'heure, on a le sentiment que vous choisissez, que vous avez peut-être pas un plan de carrière, parce qu'un plan de carrière, ça voudrait dire qu'on anticipe tout et qu'on sait exactement par quel chemin on veut passer et où on veut aller. Mais vous avez refusé beaucoup de choses dans votre vie ou...
Non, au contraire, hein, c'était peut-être une erreur, mais moi j'ai estimé qu'il fallait toujours apprendre et partir dans les aventures, qu'il y a toujours plus de bonheur à dire oui que non. J'ai refusé deux, trois trucs que je ne sentais pas, comme Le Cœur des Hommes. Par exemple, j'adore Marc Esposito, mais voilà, des trucs comme ça qui marchent très bien après, donc on fait tous des bêtises. Hein. Mais en même temps, je ne regrette pas, puisque je ne sentais pas. Mais après, en fait, Alice Nevers, ça m'a pris un moment où ça m'a un peu... Il y a une période où ça m'a... Comme c'est beaucoup de tournage, beaucoup de temps, et que ça m'a un peu bloquée.
Ouais.
Et puis là, justement, depuis quelques années, le fait d'avoir... plus de temps pour moi et aussi de faire des projets comme Berthe Morisot que j'ai voulu faire avec Caroline Champetier, où j'ai maintenant l'énergie aussi de créer mes projets, donc de faire des choses qui me plaisent. Donc c'est un grand luxe en fait d'avoir pu avoir un nom qui permet de monter. Je peux monter des projets sur moi et faire un peu plus ce que je veux.
Et vous
j'ai grandi,
à,
ça m'a fait grandir.
Vous arrivez à tout conjuguer, vous arrivez à tout gérer, ou est-ce que
c'est très difficile.
Vous n'avez pas assez de 24 heures dans une journée?
Ah non, ça c'est sûr. Non, parce que je suis une mère de famille, j'ai deux fils exigeants.
C'est pas juste deux fils, mais deux fils
exigeants. Déjà deux fils exigeants.
Mais ça, vous pouvez jouer tous les trois au foot puisque vous êtes un garçon.
Voilà.
Le soupir.
J'ai trois garçons à la maison, j'ai un mari. Ouais, ça, je suis pas en majorité, on va dire.
Vous êtes bon en maths.
Oui, voilà, on est dans les trois, c'est vrai. Bravo. Et je fais de la sculpture aussi, et j'ai ma série, j'ai d'autres projets, et voilà, non, c'est prenant. Mais après, on meurt, hein, après, on se repose, donc tout va bien.
C'est Alice Rivers, c'est combien d'épisodes par an?
Alors, j'ai commencé fin septembre, on a fini il y a une semaine, donc c'est 7 mois de tournage. Et c'est difficile parce que j'ai toujours à la fois un marathon parce que c'est long et en même temps un sprint parce que chaque journée qui commence, c'est beaucoup de minutes utiles par jour à tourner. On n'arrête jamais, on a fini une scène, on attaque l'autre. C'est toujours des intervenants qu'on ne connaît pas, des scénarios qu'on n'a pas lus. C'est-à-dire qu'on nous juge aussi. Enfin, c'est pas la même qualité de travail que sur un long métrage où je m'ennuie d'ailleurs parce que tout d'un coup, le côté on attend 2 heures que la lumière soit faite, ça me sidère, quoi. Donc je suis tellement habituée en fait à une sorte de machine de guerre. Ouais. Que j'aime bien ça aussi, mais physiquement et mentalement, c'est fatigant. Ouais. Et moi qui suis une solitaire et qui aime la sculpture aussi, qui aime être seule et dans le silence, le côté plateau en permanence avec 60 personnes qui parlent et le bruit et les gens et les interactions avec les autres qui sont à la fois merveilleuses et fatigantes, ouais, c'est un truc.
Et le piano, c'est quoi alors? C'est une bouffée d'oxygène dans votre vie? C'est justement, vous êtes seule? Oui, quand vous mettez au piano, c'est à quel moment dans tout ça?
Parfois, je me mets au piano quand on me laisse y aller.
quand les garçons vous laissent, c'est voilà, ça
ouais. Non, mais j'ai un fils très sensible de 8 ans qui ne supporte pas les musiques tristes. Et donc il pleure, et donc il arrête, et il est très, comme ça, très sensible. Donc, comme je fais souvent des trucs un peu tristes, j'ai pas beaucoup de marge, mais
il faut le mettre, à la musique avec cette sensibilité-là.
Bah oui, oui, oui. Non, mais
parce qu'il mettra son émotion dans son toucher.
Ouais, ça c'est sûr.
Mettez-le à la batterie comme ça. Un peu triste à la batterie, c'est compliqué.
Et elle trouve, au milieu de tous ces projets, de toutes ces réussites, elle trouve le temps d'être marraine également d'une association qui s'appelle Lunafam. Béatrice Borel en est la présidente. Merci.
Bonjour.
Béatrice, de venir à ce micro que nous n'allons pas tarder à ouvrir.
Je rappelle que c'est mieux de l'entendre.
Le principe de Lunafam, c'est l'union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Ça concerne énormément de personnes.
Oui, alors ça concerne environ 2 millions de personnes. Donc il s'agit de maladies psychiques sévères, je vais dire des gros mots. C'est la schizophrénie, c'est maladies bipolaires, ce sont des tocs invalidants, des dépressions sévères.
Les troubles obsessionnels.
Troubles obsessionnels, ouais. Oui, mais qui sont vraiment invalidants hein, en ce qui concerne les personnes qui adhèrent à notre association et dont nous défendons les intérêts.
Alors, quand défendre les intérêts, ça veut dire c'est auprès du législateur, c'est auprès des employeurs, de la société civile, qui est votre premier rôle.
Alors, tout d'abord, je voudrais.
On a tous. Vous avez préparé un texte, j'ai l'impression.
Oui, non, mais. D'accord, okay, d'accord. C'est un support, parce alors, que contrairement.
Donnez-moi l'ordre des questions que vous voulez que je vous
pose. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, non, mais c'est parce que je voudrais qu'on ait un regard sur le fou, entre guillemets, et je voudrais simplement faire passer un message, c'est que ce sont des personnes vulnérables, ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui ont des angoisses importantes, qui ont un regard sur elles-mêmes très dévalorisé, et ce sont des personnes qui sont soit en repli, soit on sait que ce sont des personnes qui se suicident, souvent. Voilà. Donc, je reviens et je vais répondre à votre question. Notre première mission à Lunafam, puisqu'on est une association de familles, c'est d'accueillir, de soutenir, de former les familles et de pouvoir leur donner des informations. Ça, c'est notre première mission. Et on le fait, sur tout le territoire.
Mais c'est-à-dire, toutes les informations, c'est la première chose, c'est de dire, on va vous aider à vous en sortir, on va vous aider sur tous les papiers à remplir, que sais-je, avec la sécurité sociale. Est-ce qu'on va vous aider?
On va vous écouter, parce que quand vous avez un adolescent qui n'a pas posé de problème pendant toute son enfance, ou des problèmes que l'on n'a pas tout à fait repérés, quand à un moment cet adolescent est complètement repli, vous pensez que c'est une crise d'adolescence, et puis d'un seul coup il a des hallucinations, il fait une tentative de suicide, donc c'est quelque chose qui tombe comme ça sur la famille. Et quand on rencontre pour la première fois un psychiatre, parce qu'il arrive à l'hôpital à un moment, et quand on rencontre pour la première fois un psychiatre, eh bien, il vous dit, ben voilà, il vous donne pas le diagnostic, on va mettre des fois 5 ans, 10 ans, et puis peu importe à la limite le diagnostic, mais on vous dit que c'est sévère, et on vous fait passer un message que de toute façon, la vie ne sera plus comme avant. Donc là, les familles, elles sont complètement anéanties, ça peut être aussi un conjoint, vous vous mariez avec quelqu'un, à un moment, il va dire ce qu'on appelle décompenser, et puis d'un seul coup, voilà, c'est plus la même personne. Donc les familles, elles ont besoin d'abord d'être écoutées, parce que c'est c'est quelque chose d'extrêmement violent.
Vous trouvez quelqu'un à qui parler.
Voilà, déjà que vous trouvez quelqu'un qui accueille, et on reçoit entre pairs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont vécu la même situation. Moi, j'ai un fils qui souffre de schizophrénie. Voilà. Donc ce sont des personnes...
Vous savez de quoi vous parlez.
Je sais complètement de quoi je parle.
L'ayant vécu.
Surtout que ça dure depuis plus de 20 ans, vous voyez. D'accord. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est au long cours. C'est-à-dire qu'on est dans des maladies qui ne se guérissent pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un certain rétablissement.
Il peut y avoir une amélioration, voilà, mais pas...
Absolument, et que les personnes peuvent avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue, à condition que, effectivement, les personnes, les malades, puissent accéder à des soins et qu'il y ait toutes les innovations thérapeutiques qui puissent en bénéficier. Or, sur l'ensemble du territoire, c'est pas le cas. Voilà.
Alors, donc, justement, quel est le premier combat que vous meniez sur le fait que ce soit reconnu, que les malades soient écoutés,
que les familles soient écoutées aussi, parce qu'ils
aient une place dans la société.
Oui. Alors si vous voulez, donc ce qui est important, ce sont les soins, parce que sans les soins, de toute façon, la personne ne va pas se stabiliser. Ça va être les personnes qu'on voit dans la rue, les SDF, ceux qui sont en prison parmi eux. Oui, plus de 30% qui sont des personnes qui ont des psychoses. Donc voilà. Donc d'abord le soin, et un soin de qualité et un soin dans la durée. On sait que 80% des personnes sont suivies en ambulatoire. Donc en psychiatrie, on est très très en avance par rapport au reste de ce qui concerne le domaine des soins. Mais ensuite, se pose la question de ces personnes, comment elles vont s'insérer dans la société, comment elles vont accéder à... Alors, selon le degré d'autonomie, ça peut être un logement complètement individuel, mais ouais, avec un accompagnement. Ça peut être du logement partagé, parce qu'elles ne peuvent pas vivre toutes seules. Et il faut qu'il y ait des personnes qui viennent tous les jours.
Mais tout ça, ça coûte
voilà,
de l'argent.
Voilà. Et ça peut être des structures aussi, parce que en particulier, certaines qui ont... Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir l'évolution aujourd'hui, mais il y a des malades d'hier et d'avant-hier. C'est-à-dire, il y a des malades qui ont 60 ans, qui sont dans leur famille. 30% des malades sont dans leur famille. Donc, vous avez un malade qui a 60 ans, les parents qui ont 85 ans, et vous imaginez l'angoisse, d'abord la vie pas facile, et ensuite l'angoisse pour le futur. Donc, effectivement, il y a un grand combat à mener, c'est-à-dire que les personnes ont été, les malades en psychiatrie ont été longtemps dans l'hôpital, après ils ont été dans la cité, et puis rien n'a été prévu ou pas suffisamment.
Voilà. Donc votre travail est autant au niveau de l'entourage, de la famille, des proches du patient, et alors vis-à-vis de la France, de l'État,
ministère de la Santé, secrétariat au niveau du handicap, puisqu'on est santé et handicap. Voilà. Donc c'est un travail immense, et pour lequel, effectivement, on a besoin des politiques,
Il y a des lois changées,
la psychiatrie, c'est un peu le parent pauvre de la santé publique.
Tout à fait.
Mais là, Emmanuel Macron, c'est un petit peu engagé à ce niveau-là.
Alors, on va attendre. Hein. Ah, oui. Oui, moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement précédent, mais j'ai beaucoup d'espoir. Bien entendu, on a assisté à des réunions pendant la campagne avec son équipe plusieurs fois. Donc, effectivement, on va engager quelque chose.
Mais le problème, c'est qu'il y a eu trois présidences qui avaient fait des promesses. Je parle par exemple sur le plan de l'autisme, les plans autisme, rien n'a été respecté, par exemple. Le rapport de l'IGAS et de l'IGN, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, et de l'Éducation Nationale sur le plan autisme, par exemple, qui concerne des personnes dont vous parlez, parce que les TOC, par exemple, les troubles obsessionnels du comportement, c'est souvent des troubles associés à l'autisme, donc ça rentre dans la catégorie des personnes
dont
vous
parlez. Si vous voulez, il y a eu des avancées, effectivement, pas suffisantes au niveau de l'autisme, et vous savez, donc vous êtes en train de citer un plan autisme, et bien nous, ce qu'on veut, au niveau de l'UNAF, et avec les autres associations d'usagers, c'est qu'il y ait un plan psychique. C'est-à-dire qu'on prenne réellement en charge tous l'ensemble des problèmes. Parce que si vous voulez, c'est pas... Voilà. Et avec un plan autisme qui soit avec un responsable, avec un échéancier, avec des moyens financiers et bien entendu des indicateurs d'évaluation.
Parce que Nagui disait ça coûte de l'argent, mais ça peut rapporter de l'argent aussi parce que ça crée des emplois et donc les emplois ça fait de la consommation et c'est beaucoup plus complexe ça ne semble, mais souvent ça coûte moins cher que ça ne pourrait coûter.
Oui, mais ça coûte moins cher si on soigne une personne.
Voilà.
Si quand la famille entend que son proche arrête son traitement, quand elle alerte le psychiatre, le psychiatre intervient, va vers la personne, on souhaite que nous, il y ait aussi quelque chose qui soit pas seulement le malade, qui est dans le déni souvent de sa pathologie, mais donc on aille vers les personnes. Et si on va vers les personnes et qu'on intervient tout de suite, ça va revenir effectivement
tout
beaucoup moins cher que de réhospitaliser et de repartir dans un cycle où la maladie s'aggrave.
Est-ce que la France...
Pour les jeunes aussi, dans les lycées, etc., il y a, je crois, un psychologue pour 2400 élèves. et on sait qu'à l'adolescence, c'est là où il y a des troubles, et même bien avant, en pédopsychiatrie, les pédiatres ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'un enfant, on le soigne quand il a un bobo, ça en fait très attention au physique.
Tout à fait.
Mais un enfant qui a des phobies à 6-7 ans, qui commence un peu à dérailler, personne ne fait rien, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'est pas prévenu, parce que les pédiatres ne font pas attention. Il y a un gros problème. On accueille des enfants en psychiatrie à 18 ans. Les médecins vous disent, mais ça fait combien d'années qu'il est comme ça? Et les parents disent, ah bah il était un peu bizarre maintenant. Ils disent, mais il devrait être traité depuis très longtemps.
Et
donc
c'est là où ça devient très grave.
Beaucoup de choses à faire. Et là, c'est grave. Et là, c'est
à 18, 20 ans, comment, c'est là où ça explose.
Comment êtes-vous? J'imagine que beaucoup d'associations vous ont sollicité. Mm. On est totalement conscient de votre notoriété, de votre force de communicante. Aussi, il faut faire des choix, malheureusement. Et choisir entre deux mots, c'est.
Non, moi j'ai toujours refusé parce que ça me touchait pas. La psychiatrie, ça me touche. J'avais un oncle que j'ai perdu la semaine dernière qui était psychiatre. Donc toute petite, j'ai vu arriver, j'étais chez lui l'été, des enfants qui étaient malades. Ça m'a beaucoup frappée, la détresse. Je trouve ça incroyablement injuste que quand on est handicapé physique, on vous aide, on vous aide avec votre fauteuil roulant, un aveugle, on l'aide. Il y a vraiment de la compassion, de la gentillesse et de l'entraide. Et par contre, tous ces gens, comme vous disiez très bien, qui souffrent vraiment dans leur âme et qui sont malades, on a peur d'eux, on les rejette. Enfin, c'est une solitude inouïe, quoi. C'est extrêmement violent.
Mais depuis des siècles, c'est-à-dire que ce soit le fada, le fou du village, ils sont toujours exclus,
Ça dépend. Dans certaines campagnes, soit ils étaient exclus, soit au contraire, ils étaient acceptés. Le fada ou l'idiot de village, comme on dit, il est arrivé que parfois, il ne soit pas le bouc émissaire de la société. Il y avait une protection parce que c'était, j'allais dire, dans un milieu à dimension humaine. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je milite pour des petites structures et non pas des institutions de plus en plus grandes, parce que tout aujourd'hui va à la concentration. Quand on va vers quelque chose de plus familial, de plus humain, familial au sens de l'état d'esprit, c'est beaucoup mieux.
Oui. Vous avez raison, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une inclusion dans la société.
Voilà.
Ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, mais elles peuvent être tout à fait dans la société.
Marine.
Et puis non, il y a beaucoup d'adolescents avec aussi les substances qui sont prises aujourd'hui, qui sont très différentes de ce qu'il y avait il y a 20 ans sur le marché, c'est-à-dire le cannabis, etc., qui sont des substances qui font rentrer en psychose. Il y a beaucoup plus d'adolescents qui peuvent rentrer en psychose. Donc il y a de plus en plus de jeunes qui sont en détresse. Et par exemple, l'IMM, qui est une bonne structure, l'Institut Montsouris, il y a 8 lits. En urgence, quand on a un gamin qui a pris quelque chose et qui veut se défenestrer, les parents ils savent pas où aller. Alors on se retrouve dans les hôpitaux publics, mais c'est des structures extrêmement violentes. Donc tout ça, il y a un manque de moyens immense.
Alors justement, comment faire pour vous aider ?
Alors comment faire pour nous aider ? D'abord, nous aider à changer le regard sur les personnes. Comme je l'ai dit en commençant, il s'agit de personnes qui sont en souffrance. Ensuite, déjà mettre notre site
unafam.org.
Exactement. Voilà. Vous savez, on a un service écoute famille qui est ouvert à toute famille. On ne demande pas d'adhérer, simplement on répond familles qui peuvent avoir une angoisse. On est content si on a aussi des bénévoles qui viennent nous rejoindre. La démarche de Marine est vraiment formidable. C'est-à-dire, c'est pas forcément. J'ai parlé d'accueil par les pères, mais on a tout à fait besoin de compétences par ailleurs. On a besoin d'argent, bien sûr, parce qu'on est très impliqué dans la recherche. Là, on fait un colloque au mois de juin sur prévenir la transition vers la schizophrénie. C'est-à-dire, si on repère assez tôt, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, si on repère assez tôt la pathologie, on peut éviter qu'elle soit grave.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'UNAFAM. UNAFAM.org, c'est le site internet sur lequel vous pouvez avoir des informations. On le voit en tout cas, Daniel Morin, et c'est bien que Marine Delterme s'engage aussi auprès de cette association. Bah, c'est important, nécessaire, urgent même de faire connaître des causes et des combats. On peut parfois le regretter d'ailleurs. C'est comme ça que ça peut pousser même des personnalités publiques à s'engager.
Hop, ça va, c'est bon, c'est fini, monsieur Guy. Pas d'autres phrases toutes faites, autres pensées tiédasses ou silence.
Encouragez les personnes.
Taisez-vous en même temps. Qu'est-ce que je pouvais attendre de celui qu'on appelle dans le milieu le parrain, il padrino. Combien de fois avez-vous utilisé cette antenne pour défendre certaines causes douteuses? Combien de fois l'amicale de la lutte contre la précarité des Balkanis, c'est qui? C'est vous, monsieur Guy. L'association des bienfaiteurs pour offrir une pyramide en or en hommage à l'animateur le plus bankable de France 2, c'est qui?
Jamais.
C'est vous, monsieur Guy. Vous me dégoûtez. Ce système me dégoûte, car moi, monsieur, j'ai proposé mes services à de nombreuses associations, comme par exemple l'association des femmes qui veulent vivre dans la dignité. On m'a dit non, on m'a refusé. À chaque fois, on me dit non. Toujours les mêmes associations, les plus branchées, les plus bankables, qui ont droit des parrains, des marraines VIP. J'en connais une qui recherche encore son parrain, et dans ma grande mansuétude, je vais donner du temps de parole et donc une partie de mes droits d'auteur aux représentants de cette assoce. Bonjour, maréchal. Je crois que vous vouliez apporter un peu de lumière sur une association peu exposé et qui pourtant fait un travail remarquable.
Affirmatif. Je voulais alerter le monde sur une association qui prend en charge des gens exclus. Des gens dont les parents ont tout donné pour leur patrie et qui aujourd'hui vivent dans l'oubli, pour ne pas dire le mépris. Je veux parler de l'association des fils et filles de criminels de guerre.
Oh, je vous en prie, allez-y.
C'est simple, taisez-vous. Ces gens habitués au confort des exactions salutaires de leurs parents se voient aujourd'hui spoliés de leurs droits. Je demande donc aux auditeurs de France Inter, qui partagent leur temps entre notre station et Radio Courtoisie, de bien vouloir faire un geste et d'envoyer leurs dons ici, par chèque, à France Inter, 116 avenue du président Kennedy, un chèque à mon attention. Je ferai suivre, après un prélèvement de ma petite commission, mes petits 35%.
Mais c'est dégueulasse de faire une commission sur des dons.
Alors, ça va, je prends que 35%. Nagui, lui, prend 75% sur le Téléthon.
Ah bon, pardon, oh, oui, je ne savais pas. Vous voyez, monsieur Guy, le problème, toujours la même chose, toujours les mêmes qui profitent du gâteau, vous avez dit.
N'importe quoi.
Allez, on est bien en retard. Allez, on y va.
Originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadaboudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel.
Bonjour Daniel.
Albert Azou. Bonjour. Et notre invité Marine Delté.
Bravo.
Elle sera demain et vous serez demain au rendez-vous d'Alice Nevers. Ça sera sur TF1. Deux nouveaux épisodes qui seront diffusés avec souvent une scène de crime pour commencer. Ce qui est formidable aussi dans cette série, c'est que on sait, on voit ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qui. Donc on est de votre côté dans l'investigation avec quelques pistes qui sont données. Souvent les révélations sont, il y a des twists quand même. Surprenant. On croit avoir trouvé, on croit être plus malin, et
voilà,
on se fait avoir.
Comme dans la vie.
Il y a des règles comme ça qui sont incontournables.
Oui, ça c'est les règles d'écriture des séries policières.
Parce que Columbo par exemple, on sait dès le début
qui a
tué, et après on voit comment lui va finir par l'attraper.
Ouais.
Là, c'est pas du tout le cas. La première scène, je pense pas spoiler ou divulgacher la série de demain, mais ça se passe dans un zoo, en tout cas, la première scène où une dame arrive et elle arrive pour le goûter.
Voilà, ça c'est un peu violent. C'est horrible
d'ailleurs
parce qu'on
a
tourné à Thoiry et un mois après, ils ont tué ce rhinocéros.
Ah,
vous êtes au courant de ce truc?
Oui,
pour juste prendre une corne,
prendre une corne, oui, c'est affreux. Ouais.
Ils ont tué des braconneurs, on fait ça
oui,
parce
voilà.
que. Non, mais on a tourné à Thoiry.
Des braconneurs?
Ils ont tué l'équipe à tuer. Ouais, c'est ça.
On est allé à Thoiry et ils ont tué, on a l'impression que c'est Thoiry qui a fait ça.
Non,
c'est des braconneurs qui ont fait ça.
Ils sont
venus. Exactement. Et puis il y a.
Ah oui.
J'adore.
Oui. Mais c'est Pride, c'est ça?
Ouais. Qui était aussi dans la BO de Nip Tuck.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais.
C'est une chanson qui va bien.
Ah ouais, c'est la marque de fabrique,
c'est l'ADN.
C'est ça. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est à la fin du film, on a en fait la résolution et que vont devenir les personnages après, ceux qui restent. Et voilà, il y a cette musique. Et moi aussi, ma vie privée, évidemment. Et voilà, on est au ralenti, c'est vachement bien.
Est-ce que les gens vous arrêtent dans la rue en vous demandant ce qui va arriver, en vous demandant de révéler des choses?
Non, non, jamais. Par contre, les gens. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes. Dans ma vie, enfin, j'ai entendu des gens dire la célébrité c'est difficile, tout ça. Enfin, je ne comprends pas, je trouve ça extraordinaire.
C'est
que les gens, ouais, les gens viennent, quand ils me voient, c'est comme un cadeau pour eux, je crois, dans leur journée, ils ne s'y attendaient pas. Ils me voient, ils me font un immense sourire et ils sont juste heureux. Enfin, c'est comme un bouquet de fleurs qu'ils m'offrent, c'est vraiment merveilleux. Donc, ils ne me posent pas de questions en particulier, ils sont juste contents de me voir et moi de les voir.
Il y a des bons et des mauvais côtés à la célébrité. J'imagine qu'il y a des moments où vous aimeriez être tranquille et pas forcément être à table au restaurant, pouvoir manger tranquillement sans que quelqu'un cherche à vous prendre en photo avec son portable.
Bon, avec une cagoule.
Les gens, ils se tiennent bien, je trouve. Non, ils sont polis. Non, moi, j'ai pas d'intrusion
vous
comme ça.
Bien, très bien.
C'est plus dur dans les festivals. Les festivals, quelque chose de très concentré, mais dans la vie, non, non.
Mais vous savez pourquoi ils ne vous reconnaissent pas?
Parce que
vous
peut-être, êtes, vous êtes non, plus si,
belle. Vous êtes, belle, vous êtes plus belle dans la vie que dans Alice.
Je vais dire à la production.
Quel flatteur, c'est Nagui.
Il y avait un saloperie au début quand même. Hein,
mais ils me voient dans la vie. On se connaît,
on se voit, on se croise, tout va bien. Mais je
plaisante.
Elle a une douceur dans la vie, elle a une fraîcheur, elle a même une coiffure qui est agréable. Et je trouve que dans Alice Nevers, ils l'ont durci. Mais c'est le rôle aussi qui veut ça, c'est normal.
Non, mais quand Marine Delterme est entrée, vous lui avez parlé de sa coiffure dès le début. J'étais là dans l'ombre.
C'est vrai.
Et je vous ai vu.
Non, parce que j'ai trouvé rayonnante.
Ça vous travaille, là.
J'ai trouvé rayonnante. Voilà. et nous embrassons.
Il aime les femmes, Nagui, il faut le dire.
Non ah bon oui.
Il a un regard.
Mais la même femme depuis des années. Mais il a fait
de la tôle pour ça.
Et il s'est excusé depuis. Ça,
Alice Nevers. D'ailleurs, peut-être, il prépare un épisode sur moi dans Alice Nevers aussi.
C'est ça.
Ça sera donc demain sur TF1, les deux nouveaux épisodes suivis de deux rediffusions. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Aujourd'hui, les amis, on va faire un point sur la journée cruciale d'hier, cruciale pour Emmanuel Macron, qui rencontrait les syndicats pour évoquer son projet de réforme du Code du travail.
Mais on s'en fout de Macron et des co-communistes. Oui, on s'en bat les noix, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bricolage. Quelle journée, mes amis. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'outils, vous devez d'urgence aller vous équiper et acheter un marteau. Pourquoi? Parce que...
Je cognerai le jour. Je
cognerai
la nuit.
Oui, allez, vous achetez un marteau.
Alors, je disais, Emmanuel Macron a rencontré les partenaires sociaux pour tenter de les rassurer. Une tâche délicate pour le nouveau président qui va...
Journée mondiale du bricolage, ça continue. Et pourquoi c'est important le bricolage, hein? Pourquoi? Parce que si on a un marteau, on peut bâtir. On peut bâtir, mais bâtir quoi?
Je bâtirai une ferme, une grange et une barrière.
Et pour mettre quoi dedans?
J'y mettrai mon père, ma mère, mes
frères
et mes
sœurs. Oh, vive le bricolage, la solution idéale pour le regroupement familial. Je l'ai bouffé celui-là.
Bon, Emmanuel Macron, ça a donné quoi au final, ces rencontres d'amorce de changement du Code du travail? Eh bien, figurez-vous que...
Et si vous n'avez pas de marteau, c'est pas grave. Vous pouvez quand même fêter la journée mondiale du bricolage en repeignant la maison. Une fois, j'ai repeint toute la baraque en rose avec des points bleus.
C'était joli.
Moi, j'ai adoré, mais mon voisin a détesté.
Qu'est-ce que ça peut lui faire, votre voisin?
C'était sa maison.
Ah oui, oui, je comprends mieux, oui, oui. Alors, ok, bonne idée de repeindre sa maison, mais le problème, c'est que ça prend du temps.
J'ai la solution. Une fois, je n'avais que peu de peinture et aussi peu de temps. Du coup, j'ai repeint une petite surface.
Une table, une chaise?
Non, ma grand-mère.
Ah. Quelle couleur?
En rouge.
Ça lui a plu?
J'en sais rien.
Comment ça vous savez pas? Qu'est-ce qu'elle a dit alors?
Mais elle a rien dit, elle est morte, étouffée par la peinture.
Bon, merci, merci. Bonsoir,
salut bonsoir.
Alors pour le compte-rendu des rendez-vous de Macron, là je peux...
J'en ai oublié. Pour célébrer la journée mondiale de bricolage, le plus simple c'est de planter des clous en musique. Savez-vous planter des clous?
C'est bon, c'est fini.
On les plante avec le nez.
Non, stop, on arrête, stop.
Mais j'ai pas terminé.
Si, vous avez terminé.
Fasciste.
Oui, je sais, mais ça n'a rien à voir. Tant pis pour Macron, on verra ça une autre fois. Salut les amis, à demain.
Merci Albert Agou, merci Daniel Morin.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Marine Delterme a droit, Leïla, à son brouillon de culture sur mesure.
Oui Marine, je vous sors de la promo, un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
Ça vous met dans un drôle d'état les mariages. Vous renversez votre verre parce que je vous demande à quand votre tour.
Tout le monde veut me marier. C'est un cauchemar.
Vous avez tort. C'est une tranquillité.
C'est vous face à l'excellent Malik Midi dans Berthe Morisot. Morisot que vous interprétez dans ce film, une peintre française, membre fondatrice du mouvement d'avant-garde que fut l'impressionnisme. Vous avez raconté comment maintenant votre notoriété, le temps que vous avez, vous permet de monter des projets comme ça et de vous choisir des rôles. Et c'est pas n'importe lequel puisque vous l'avez dit, votre passion c'est la sculpture, c'est l'art, on a parlé du piano. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à la sculpture?
Pas par le dessin en fait, j'ai toujours dessiné. Quand j'étais enceinte de mon premier fils, j'ai eu un an d'arrêt, je suis rentrée dans un atelier, j'ai commencé à travailler, voilà.
Et qu'est-ce que vous sculptez?
Ah, j'ai fait des singes là dernièrement, voilà. J'ai beaucoup changé.
C'est de la glaise?
Ah non, c'est de la terre. Il y a de la terre crue, il y a des terres crues que je vends. Il y a du bronze et là c'est de la résine. Depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de visages avec des yeux, des choses très expressives. J'ai fait du monumental aussi pour une marque. J'ai fait des sculptures, dont j'ai fait des bijoux aussi. Enfin voilà, je fais plein de choses. Et là, je suis sur la résine, ouais, avec des singes pour qui utilisent la chirurgie esthétique comme arme, voilà. J'ai quelque chose de plus drôle. Et c'est souvent assez dramatique ce que je faisais avant.
Et vous exposez?
Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'exposer, voilà. Donc, c'est une belle aventure. J'ai eu la chance d'être achetée aussi par des très bon collectionneur. D'abord, c'est vraiment la sculpture, ça a toujours été facile et excitant et toujours fait des belles rencontres. Voilà, avec,
vous dites c'est facile, mais la sculpture, c'est un art où on peut difficilement tricher parce qu'il faut scoltiner la matière, il y a la fonderie, il faut suivre. C'est un art beaucoup plus difficile.
C'est un mélange entre technique et art, justement.
C'est très exigeant et difficile de tricher.
Ouais, c'est difficile de tricher. Je l'ai fait en solitaire pendant des années parce que je me coltinais la matière, les structures, etc. Sur le monumental, on a besoin un peu d'aide, voilà. Et là, c'est en train d'évoluer, en fait. C'est drôle que vous disiez ça parce que je suis en train de refaire mon appartement et j'avais mon atelier et j'ai décidé de ne pas le garder parce que il y a une autre manière maintenant de faire la sculpture, c'est-à-dire des dessins, des 3D, etc., de faire fabriquer des choses, ce qui permet d'aller plus vite en fait quand même, parce qu'il y a quand même des pièces où je suis restée parfois des mois et des mois sur... Mais c'est aussi comme ça qu'on trouve un visage, hein, mais je vais travailler autrement. Et j'étais d'ailleurs à la Biennale de Venise, là, j'ai la chance de croyer Damien Hirst, c'est un peu leur méthode de fabrication et tout, voilà, ça évolue pour
moi. Mais pardon, pour bien comprendre, ça veut dire que vous sculptez sur ordinateur et ensuite vous donnez à fabriquer en résine ?
Non, oui, là c'est ce que j'ai pas encore fait, mais que je vais commencer à faire, c'est-à-dire... parfois des visages que j'ai créés quand on est plus dans le concept en fait. Moi, je suis en train d'évoluer vers un peu une autre manière d'envisager mon travail et on peut aussi mouler un visage et il y a des manières plus rapides et plus techniques pour faire plus de pièces, pour faire des choses. C'est une autre façon de voir ce travail.
Est-ce qu'être encore aidé par un programme informatique, ça n'enlève pas justement la part humaine de l'art ?
Non, parce que ça veut dire que je peux quand même toujours dessiner moi ce que je veux, mais le faire plutôt que de le faire moi. Voilà. Et ça permet d'aller plus vite, en fait, parce qu'il y a quand même des pièces qui sont longues à faire.
Et la sculpture, ça a toujours été lié au... Pardon.
Il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple à Montpellier, il y a CHD Art Production, qui est une entreprise qui aide les artistes contemporains à produire des œuvres monumentales. D'accord. Donc on a un rapport, tout d'un coup, à l'œuvre, qui n'est pas forcément l'œuvre que l'on fait soi-même, que l'on crée de ses mains, mais que l'on pense dans le concept. Et on fait appel ensuite à tout un tas de corps de métier pour réaliser l'œuvre, pour la donner
exemple,
à voir.
Voilà, un exemple précis, le marbre, par exemple, qui est une des choses la plus dure à travailler. Il suffit de tomber sur une veine.